Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Entente cordiale, bonjour. Poursuivons aujourd'hui notre exploration des sentiments, du moins de ceux que nos amis britanniques ont choisi d'exprimer, en recourant à la langue de Molière. Après avoir recensé de manière non exhaustive les sentiments positifs, abordons aujourd'hui les sentiments dits négatifs. Une fois encore, rappelons la définition que le dictionnaire Larousse de la langue française donne au mot de sentiment. Un état affectif qui est la manifestation d'une tendance ou d'un penchant, d'une bonne ou d'une mauvaise disposition. Commençons notre chasse au sentiment par le mot « gaucherie ». Ce nom commun, synonyme de maladresse, était récemment utilisé par le critique littéraire du Sunday Times, A.A. Gill, pour dire tout le mal qu'il pensait d'un ouvrage de Stephen Poliakoff. « The characters are alternately elevated on plinths of their own smugness or wallowing in pits of their own sexual gaucherie. It is the most emotionally dishonest book. » De la gaucherie, passons maintenant à l'embarras, un sentiment assez voisin. Un journaliste du supplément littéraire du Times notait il y a quelque temps que le mot français était désormais tout à fait admis en Angleterre. « It is only in the 20th century that people began to embarrass each other. But in the 17th century, embarras was used as a French word, a delicious French word. » Si la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, le mot a cours, lui aussi, outre-Manche. Il y a quelques semaines, le Times évoquait comme suit la déception qui fut celle de Lady Caroline Lamb quand elle ouvrit les yeux sur les réalités de son mariage avec Lord Byron. After her eyes have been opened to the realities of the marriage on which she embarked with such fine hopes, she can only marvel with a kind of nostalgia that she had ever mistaken the role for the man. Une curieuse expression inconnue chez nous accourt en Grande-Bretagne qui désigne ce goût si commun aujourd'hui pour la dépravation et la vulgarité. No, I wondered if the film was just Weimar decadence for Middle America, a swinging night of nostalgia de la boue, écrivait en 2002 dans le Times le journaliste Cosmo Landesman à propos de la comédie musicale Chicago. L'ennui semble être un sentiment équitablement partagé chez les sujets de sa gracieuse majesté, et le mot français accourt aussi en Grande-Bretagne, où il conserve tout de même une tournure très littéraire. C'est une fois encore le journaliste du Sunday Times à qui nous empruntons cette phrase, extraite de l'un de ses articles, paru dans le supplément dominical de ce journal, à propos de la très belle rétrospective consacrée actuellement à Londres au peintre et portraitiste mondain Laszlo. « With art, things tend to start with a fanfare, a pyrotechnic entrance, but they depart in whimpers and ennui and irony. » Go and look at the truncated little amuse-bouche, exhibition of Philippe de Laszlo at the National Portrait Gallery. Après l'ennui, la tristesse. Restons dans le domaine artistique avec cet exemple tiré lui aussi du Sunday Times. Tate Modern has a new room filled with Kuhn's mirror pieces, based on famous cartoon characters, and the last thing I was prepared for in there was tristesse. De la tristesse, coulons maintenant vers la honte. I hate to spoil a good cliché, but the refrain in France was « Quelle honte !» s'exclamait ce journaliste anglais au lendemain du match de sélection pour la Coupe du Monde de football dans laquelle la France s'était qualifiée grâce au geste de la main de Thierry Henry. Comme tout à l'heure avec nostalgie de la boue, nos amis britanniques ont aussi formé à partir de honte l'expression inconnue en France de « mauvaise honte ». Elle reste tout de même réservée au cercle littéraire et l'exemple qui suit a été prélevé dans un article du supplément littéraire du Times il y a plusieurs années. « I talk with ease and I'm never shy, weighed down and oppressed by that miserable mauvaise honte which torments and constrains me elsewhere ». Viennent ensuite « dégoût de vivre » et « chacun a son dégoût ». deux manières d'illustrer ce vieux proverbe français qui assure qu'en novembre, l'anglais tue le faisan et en décembre, il se tue lui-même. He gets on with life with a thick-thin resilience, which seems to have been his answer to the dégoût de vivre, lit-on dans ce numéro du Times en date de 2002. Et, un peu plus loin, dans le même article, Everyone has his or her pet in propriety. Chacun a son dégoût. On ne pouvait passer, enfin, à côté de ce mot tellement français, cafard, dont l'émigration outre-Manche paraissait bien improbable. C'était sans compter sur la Deuxième Guerre mondiale. De retour du front d'Afrique du Nord, les soldats britanniques la rapportèrent chez eux, à la faveur d'une permission, et un grand poète y eut recours dans une épopée consacrée à la camaraderie dans les tranchées. Ainsi que l'explique un article du Times de juillet 2009. Owen's poem is a great work of what armies on the Western Front came to know as le cafard, a despondency and disenchantment that all soldiers experience at one time or another. The phrase was picked up from the French legionnaire who had served in North Africa and, bored and scared on long scorching desert sentry duty, found some meager entertainment in shooting beetles, les cafards. L'évocation du sacrifice consenti par les combattants alliés en Afrique du Nord nous amène tout naturellement, avant de refermer ce chapitre, des sentiments dits négatifs, à citer le mot de recueillement. Si son usage demeure encore rare et toujours conditionné à l'emploi de guillemets outre-Manche, on le trouve ça et là dans la presse anglaise. En voici un exemple, extrait là encore du Times, mais d'il y a quelques années. « She must have believed so. » Determined as she was to cultivate her interior, spiritual being to nurture the recueillement necessary to the production of a patient and painstaking work. C'était Entente Cordiale, l'émission qui revisite le vocabulaire français utilisé outre-Manche.